Je vais terminer ce message que j'avais commencé sur l'Église, que j'avais intitulé « Faire Église » ou plus précisément « Faire Église locale ». Et dans la première partie, j'ai été amené à rappeler ce que c'est que l'Église universelle, le corps du Christ ou l'épouse, qui est une entité spirituelle. Et il m'a semblé important de redéfinir cela avant de parler de l'Église locale. Et j'ai aussi commencé l'introduction sur l'Église locale en parlant des missions, les missions de l'Église locale, à savoir deux missions principales, une mission externe qui est l'annonce de l'Évangile et une mission interne qui est la formation des disciples. Et c'est ce que je vais développer un peu plus ce matin. Le Seigneur nous a donné un processus qui est tout à fait cohérent, c'est-à-dire premièrement annoncer l'Évangile et ensuite faire de ceux qui auront accepté l'Évangile des disciples. Donc on commence d'abord par annoncer l'Évangile et ensuite on fait des disciples. Et je disais déjà que l'annonce de l'Évangile est quelque chose d'assez important et que je ne vais pas l'aborder ce matin, ça fera carrément l'objet de toute une série de messages sur l'annonce de l'Évangile parce que c'est vraiment central pour nous. La deuxième partie de la mission qui concerne à faire des disciples, ça va être l'objet du message de ce matin. Et nous allons voir comment, en fait, on forme des disciples dans l'Église, dans l'Église locale. Et, ou plus généralement, comment on fait Église ensemble. Le Seigneur l'a dit d'ailleurs, je crois qu'il suffit de revenir à ce qu'il nous a dit dans Matthieu chapitre 28. Versets 19 et 20, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le Seigneur a tout dit dans ce passage. Comment on fait les disciples? Il dit « Faites des disciples » et il dit comment? Premièrement, baptisez. Et deuxièmement, enseigner. Les choses sont simples et claires. Une fois qu'une personne a accepté l'Évangile, le processus suivant, c'est le baptême. Tout de suite, le baptême. Alors, j'aimerais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé concernant le baptême. Il y a quelques années, j'avais parlé de l'Évangile à une personne qui connaissait plus ou moins l'Évangile. Et je lui avais mieux expliqué l'Évangile. Et finalement, cette personne a donné sa vie à Christ. Et entre-temps, je suis parti à Lyon. Et la personne m'appelle un soir en disant « Eric, je veux que tu me baptises. » Je dis « Mais non, c'est pas possible. Moi, pourquoi tu ne t'adresses pas à une église ?» Elle me dit « Non, mais je veux que ce soit toi qui me baptises. » Là, j'étais assez perturbé. Je lui dis « Je suis pas pasteur, moi. Je peux pas baptiser. » Et la personne insiste et dit « Je veux que tu me baptises. » Alors, je suis allé voir un ami et je lui soumets ma difficulté. Je dis « Voilà, il y a une personne qui me demande de la baptiser et je ne sais pas, je n'ai pas le droit de le faire. » Il me dit, cet ami me dit « Mais qu'est-ce qui empêche que tu le fasses ?» Moi, je veux pas te dire comment, je ne veux pas te dire « Fais-le ou ne le fais pas », mais réfère-toi à la parole. Que dit la parole sur le sujet? Va chercher dans la parole. Alors, je suis reparti, j'ai pris ma Bible et j'essaie de voir un peu les passages qui parlent du baptême et je prends Actes chapitre 8 et j'aimerais vous lire les versets 35 à 38. Il s'agit de Philippe qui rencontre, que l'Esprit envoie vers un eunuque éthiopien. Et voici ce que dit ce passage. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. » Et il pose cette question, « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais en fait, rien ne m'empêche de baptiser. Alors, je viens à Nantes, on va sur la côte, et donc je pose des questions à la personne. Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est ton Seigneur? Je suis absolument sûr, je veux le suivre, je lui ai donné ma vie. Écoute, ok, bon, sur ta confession de foi, je te baptise. Et je baptise la personne. Et je lui dis maintenant, ne reste pas seul, rapproche-toi d'une église, d'autres chrétiens. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Maintenant, il faut que tu ailles te fa faire former, il faut que tu ailles avec d'autres chrétiens, que tu puisses vivre l'église ensemble. Mais moi, j'ai fait ma part. Tu dis que tu as reconnu Jésus comme sauveur, sur ta confession, je te baptise. C'est comme ça que cela s'est passé. Et finalement, je me suis rendu compte que le baptême que le Seigneur nous a ordonné est quelque chose de relativement simple et que c'est un ordre qu'on nous donne. Et le Seigneur dit, dès que vous avez reçu le message, faites-vous immerger. C'est une question d'obéissance. Et ça se fait très, très rapidement. Et j'ai recherché dans les Écritures, notamment dans le livre des Actes, les baptêmes qui ont eu lieu. Et je vous donne simplement quelques références. Dans Actes chapitre 2, verset 41, chapitre 9, verset 18, chapitre 10, verset 47 et 48. Chapitre 16, verset 14 et 15, chapitre 16, verset 32 et 33, et chapitre 18, verset 8. Et dans tous ces passages, dès que les personnes ont accepté Jésus, on les a baptisés tout de suite. Et il y a même un cas, chapitre 16, verset 32 et 33, la personne a été baptisée dans la nuit même. On n'a même pas attendu le lendemain. J'ai accepté Jésus, il n'y a rien qui empêche. C'est tout de suite. Je n'ai trouvé aucun cas dans les Écritures où les gens ont dû attendre. C'est j'ai accepté, hop, baptême. Mais même dans la nuit, tout de suite, j'ai accepté le Christ. Et j'ai trouvé que c'est tellement plus simple comme ça, c'est tellement plus. C'est ce que le Seigneur attend de nous, en fait, finalement. Tu acceptes, hop, tu te fais baptiser. Et ça paraît important pour le Seigneur, le baptême, c'est pas juste, c'est pas une option. Et ce n'est qu'après ça que le Seigneur demande d'enseigner. Baptisez-les et enseignez-les ensuite. Donc il y a un processus. Et malheureusement, les églises ne sont pas toujours dans cette obéissance simple à la parole de Dieu, où Jésus dit quelque chose, on le fait aussi simplement. Jésus donne un processus, un ordre à respecter. Annonce de l'évangile d'abord, baptême, enseignement. Il y a un processus on sent que c'est tout à fait cohérent et tout à fait logique. Et il me semble parfois, c'est mon avis, que parfois les églises sont faibles, spirituellement parlant, ou sèches, parce qu'on n'est pas toujours dans l'obéissance absolue de la parole, l'obéissance simple. Et on sent cette faiblesse de l'église, et parfois les traditions ont tendance à prendre le pas sur la parole de Dieu. Il faut que de temps en temps nous fassions un peu l'analyse de ce que nous faisons pour savoir ce qui est tradition et ce qui est parole de Dieu, et revenir vraiment à la parole pour que nos traditions, finalement, n'affaiblissent pas spirituellement nos églises. Et je parlerai de la. J'ai donné un verset la dernière fois de la construction de l'église. Jésus a donné un verset, enfin, Jésus dit quelque chose dans Marc chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Et il me semble que parfois les hommes se mettent à construire l'église, à la place du Seigneur. Avec nos traditions, notre raisonnement, parfois, on dit on va faire comme ça. Alors que le Seigneur a dit, non, c'est moi. C'est mon Église et c'est moi qui l'ai construite. Donc c'est. J'aimerais prendre un exemple. Hein. Imaginons qu'on veuille comparer l'Église à un système politique. À quel système pourrions-nous comparer l'Église? C'est-à-dire, est-ce que l'Église est une monarchie? Est-ce que l'Église est une aristocratie? Une oligarchie, est-ce que l'Église peut être comparée à une démocratie? On peut essayer de voir, de faire une comparaison. Et en fait, je vous pose cette question parce que j'ai assisté une fois à un congrès et un des intervenants a parlé de ça et ça m'a vraiment touché. Et lui, il disait clairement que l'Église n'est pas une monarchie, l'Église n'est pas une oligarchie, l'Église n'est pas une aristocratie, l'Église n'est pas même pas une démocratie. Et il prononce un mot, il dit, l'Église est une christocratie. Alors, moi, ce qui m'a un peu touché. Enfin, ce qui s'est passé quand il a dit ce mot, c'est qu'il y a eu un peu de murmure dans la salle, comme une gêne. Dans le mot Christocratie, on sent un pouvoir absolu du Christ. Tu vois, Christocratie, il est le seul maître. Et il y a eu, comme si ça gênait les gens, mais j'ai dit, mais c'est tout à fait ça. Le Christ est le maître absolu de son Église. On est dans une Christocratie, c'est lui qui décide tout. Si on veut vraiment être disciple, le maître est là et il n'y a que lui qui commande. Et pour moi, l'Église, le meilleur mot que j'ai trouvé pour l'Église, c'est ça, c'est une Christocratie. Il y a un seul maître et c'est lui qui dirige. Il a toute l'autorité. Voilà. Et je dirais, si on n'est pas content, ce serait dommage. Nous sommes obligés de l'accepter qu'il est le Seigneur absolu. Nous sommes dans une Christocratie. Et donc, c'est lui qui doit décider dans l'Église. Toute décision. L'Église ne peut pas prendre une décision importante sans consulter le Maître. Ce n'est pas possible. Alors, vous allez me demander, mais comment on consulte le Maître? Et j'aimerais vous lire un passage dans Actes toujours, chapitre 13, versets 2 et 3. Il est écrit, donc on parle des premiers disciples. Il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, et Saul, pardon, il s'appelait encore Saul à l'époque, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit là que les disciples, ils attendaient en fait que le Saint-Esprit parle. Ce n'est pas eux qui prenaient les décisions. Donc pour ça, il faut prendre un moment. Il faut prendre des moments de prière et parfois de jeûne pour que le Saint-Esprit parle. Et il y a des gens qui ne croient pas forcément que le Saint-Esprit parle encore. Mais si on lui donne le temps, il parle. Il faut simplement lui donner l'occasion. Donc prendre le temps de la prière, du silence. Et par moment, hop, il y a une voix qui s'élève. Le Saint-Esprit parle par quelqu'un qui donne une parole, soit en langue, soit en langage clair. Mais le Saint-Esprit parle, mais encore faut-il l'inviter à le faire. Et mais les églises, malheureusement, beaucoup d'églises prennent des décisions, même importantes, sans consulter le maître de l'église. Et c'est parfois un peu dommage parce que l'église s'affaiblit comme ça, spirituellement. Si le maître ne dirige pas, on se met à construire à sa place. Et si, moi, je pense que j'aime souvent me tourner vers l'église apostolique, dans le livre des Actes. Pour moi, qui est le modèle qui démarre, les apôtres sont encore là, ils nous montrent comment faire. Ils ont vécu avec le Seigneur, ils continuent à montrer comment faire l'Église. Et il y a un verset pour moi qui résume la marche de l'Église locale selon le Seigneur. Il se trouve toujours dans le livre des Actes, chapitre 2. J'aimerais vous lire un verset, c'est le verset 42, qui est un résumé de comment doit marcher l'Église. Donc, il est question des disciples, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En fait, tout est dit. Le fonctionnement d'une église locale. La première chose qui est citée, c'est l'enseignement. Je suis baptisé, il faut que je sois enseigné. Première chose. L'église commence par ça. Et ça doit être la tâche principale des anciens d'une église. Enseigner. Enseigner la parole. C'est la première chose qui est citée pour l'église locale. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans la marche de l'Église, il s'est trouvé que les apôtres ont dû remettre un peu les choses au clair dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait tous les jours. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc les apôtres disent, notre rôle principal, c'est le ministère de la parole. C'est vous enseigner. Nous ne pouvons pas perdre notre temps à servir aux tables. Il est important que l'enseignement soit au cœur de l'église locale, que les gens soient vraiment enseignés. Donc la responsabilité des enseignants est capitale, est grande. Et moi j'y pense souvent. Je pense toujours à un verset de Jacques, Le premier verset de Jacques chapitre 3, où il est dit, Jacques nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et ça, j'en ai conscience, que je serai jugé plus sévèrement parce que j'enseigne. Parce que c'est capital l'enseignement. Donc, celui qui enseigne doit y penser, même si on peut toujours faire des erreurs. Mais on doit garder dans le coin de la tête que c'est important l'enseignement dans l'église locale. Et le Seigneur nous prévient, tu veux enseigner, tu seras jugé plus sévèrement. Et c'est une responsabilité. Et qu'on ne doit pas se précipiter à dire un peu à dire les choses, mais à bien peser les choses au regard de la parole de Dieu. Parce qu'il y a, le Seigneur nous demandera des comptes à nous qui enseignons. Et donc l'enseignement nous paraît important et ça va passer par des études bibliques, par plusieurs moyens. Il y a les études bibliques qu'on fait dans les groupes où les gens se rassemblent dans l'église pour lire la part, pour faire des études de la Bible. Il y a les prédications, comme ce matin, ça fait partie de l'enseignement. D'où l'importance du culte. La dernière fois, j'avais fait quelques allusions au culte en rappelant toujours que ce n'est pas le cœur de l'église locale, ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé. Mais c'est quand même important. Parce que c'est là aussi, par exemple, ce matin, que nous avons un enseignement. Donc, le culte a son importance. C'est aussi l'endroit où on se retrouve souvent tous ensemble. Donc, c'est aussi important que nous ayons un culte. Et d'ailleurs, la deuxième chose qui est citée dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Voilà, deuxième chose citée, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, le culte aussi nous permet de vivre une certaine communion fraternelle. Il n'y a pas que le culte qui le permet, mais ça nous permet de nous retrouver. Il y a parfois des agapes qu'on fait après le culte. Ça permet de cultiver la communion fraternelle aussi. Mais il faut que nous pensions aux relations en dehors du culte, qui sont très importantes. La communion fraternelle se vit surtout, je dirais même plus, en dehors du culte, où on va encore partager des choses. Galates chapitre 6 nous dit, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça veut dire que c'est capital. La loi de Christ est tout de suite liée au fait de porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est vraiment capital pour l'église locale. Ce matin, quand notre sœur est venue en détresse, en pleurs, l'église est là pour porter les fardeaux ensemble. Ça fait vraiment partie du fait de faire église ensemble, porter les fardeaux les uns des autres. Il y a plein de choses comme ça qui se vivent dans l'Église, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Il nous est dit aussi, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est en Église aussi que nous allons nous fortifier ensemble, nous allons nous exhorter, nous allons nous encourager en Église. Et aussi, parfois, nous sommes amenés aussi à corriger. Parce qu'il peut arriver qu'on soit sur un mauvais chemin. Et nos frères sont là pour nous corriger. Hébreux chapitre 3, verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est-à-dire que si je vois un frère qui est dans un péché, avant qu'il s'endurcisse, je dis « Mon frère, reviens. » Ou ma sœur, reviens. Ça, c'est l'Église qui doit jouer ce rôle aussi. Quand je vois quelqu'un qui commence à prendre un chemin, hop, je vais corriger. Et je vais l'avertir de ce chemin qui mène peut-être à la mort. Et toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Nous avons ce devoir d'avertir. Quand j'ai un frère qui commence à vivre dans le désordre, une sœur, avertissement, reviens au Seigneur. Mais ceci dit, ça ne doit pas se faire n'importe comment, évidemment. Il ne faut pas que je sois dans l'accusation. La parole nous dit aussi comment faire. Clairement, hein, il faut que ce soit fait avec douceur et avec sagesse lorsque je reprends un frère ou une sœur. Mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, nous dit Paul dans Galates 6.1. Toujours penser à ça. Je dois avertir, mais avec sagesse et avec douceur. Et parce qu'il y a en fait ici une vie qui est en jeu, une âme qui est en jeu, qui va peut-être se perdre pour l'éternité. Et je ne peux pas me permettre de dire, je risque de frasser un frère parce que si je lui dis, ça va. Non, il y a vraiment une vie qui est en jeu. Et c'est l'apôtre Jacques qui nous le précise bien dans sa lettre, chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il s'agit de sauver une âme de la mort. Donc nous avons cette responsabilité de reprendre des frères et des sœurs qui sont sur une voie, qui s'éloignent de la vérité. Là, nous avons le devoir. Sinon, en fait, je dirais que ce serait de la non-assistance à personne en danger. Quelqu'un qui va mourir spirituellement, j'ai le devoir de le sauver, de le rappeler à la vie, même si ça peut faire mal, ce que je peux lui dire, ou ça peut. Mais il est important que nous ne laissions pas des personnes aller au danger sans venir au secours. Et ce secours doit aussi être matériel. Nous ne sommes pas là que pour être des spirituels, mais nous avons aussi à tendre la main à des gens qui sont en difficulté matérielle. L'Église est là aussi pour ça. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, versets 9 et 10, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc il y a ici deux choses. Il y a d'abord l'hospitalité. Donc dans l'Église, les frères ne peuvent, ou les sœurs ne peuvent pas être en difficulté sans que nous soyons indifférents à cela. L'Église est là aussi pour porter hospitalité les uns aux autres. Et il est aussi question de dons. Nous avons tous reçu un don du Seigneur, ou des dons. Il nous est demandé de les mettre au service de l'Église. C'est ça aussi, faire Église. Et la troisième chose qui est citée dans le verset que je vous ai donné, je reprends le verset, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le repas du Seigneur est quelque chose d'important, on l'a dit tout à l'heure. On va partager ce repas ensemble, en Église. Et le passage que Olaf n'a pas repris tout à l'heure, j'aimerais vous le relire, parce qu'il est vraiment le fondement pour nous. Pourquoi on fait ça? Pour qu'on se souvienne de ce que le Seigneur a fait, qui se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. J'aimerais vous les relire, les versets 23 à 26. C'est l'enseignement que Paul donne aux disciples à ce moment-là. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est ce que nous avons chanté. « Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Et il répète, « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc ce passage est vraiment central pour nous. Et quand on est ensemble, il est bon qu'on prenne, on se rappelle de ce que le Seigneur a fait et qu'on prenne ce repas ensemble. Ça aussi, c'est ce qui nous rassemble aussi au culte. Et dernière chose qui est citée dans le verset que je dis, qu'il résume la marche de l'Église locale. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, il est important que l'Église prie. On est là aussi pour ça. Prier est aussi une mission de l'Église locale. Et prier avec persévérance. Parfois, les choses ne marchent pas tout de suite. Le Seigneur nous dit, persévérez. Si je ne réponds pas tout de suite, persévérez dans les prières. Et c'est ce que faisaient les disciples au premier siècle, au tout début avec les apôtres, Actes chapitre 1, verset 14. Tous ensemble, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ils persévéraient. Voilà, donc régulièrement, ils étaient là à prier, à supplier le Seigneur, ou même à le louer. Mais la prière, c'était continuellement qu'ils étaient soit dans l'action de grâce, parce que le Seigneur nous donne des choses. D'abord, il nous a donné la vie éternelle. Et puis, il nous donne des choses quotidiennement. Donc, il y a l'action de grâce. Et il y a aussi les supplications, parce qu'il y a des épreuves. On a besoin de lui. On fait appel à lui. Et l'Église est là pour prier régulièrement, toujours dans la persévérance. Et ceci, évidemment, pas seulement le dimanche matin. Et la prière, c'est la vie de chacun de nous. On est tous en prière, individuellement. Ou parfois, on se retrouve entre deux frères ou trois sœurs pour prier aussi. D'ailleurs, le culte que nous faisons, je pourrais poser une question. Quel peut être l'effectif minimal pour faire un culte, à votre avis?
Deux ou trois.
C'est tout à fait ça. En effet, oui. Matthieu chapitre 18, verset 19-20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. À partir du moment où nous sommes deux ou trois, au nom du Seigneur, nous formons église. Et il est au milieu. Et on peut faire un culte. C'est aussi simple que ça. Donc, il suffit d'être deux pour commencer à faire un culte. Et en fait, le culte, c'est quoi? C'est une réunion autour du Seigneur Jésus. C'est ça, un culte. Et une fois qu'on est deux, on s'accorde, hop, on commence à faire un culte. On fait une église comme ça. Donc, à deux ou trois, on commence déjà à prier ensemble. On commence à étudier la Bible ensemble. On peut prendre le repas du Seigneur ensemble, à trois. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Une fois que nous sommes réunis autour du Seigneur Jésus, nous formons l'église et on peut faire tout ça. Donc, le Seigneur nous donne l'effectif minimal qu'il faut. Il suffit d'être deux, de s'accorder, hop, autour du Seigneur. On forme l'église, on peut faire un culte. Et voilà. Et donc, finalement, notre vie ne doit pas être centrée sur le culte du dimanche matin. Mais nous avons tellement de choses à faire. On peut s'appeler entre nous. On a les coordonnées les uns des autres. On peut s'appeler et surtout partager des sujets de prière. Lorsque ça ne va pas, appeler un frère, une sœur. Tiens, est-ce que tu peux me porter dans la prière? Ou prions ensemble. Prions ensemble au téléphone. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi j'aime bien. Je prie souvent au téléphone. Parce qu'on n'a pas besoin d'être physiquement ensemble. Le Seigneur, il est... vous connaissez ses dimensions. Lui, il est partout en même temps. Donc voilà. Au téléphone, il y a un souci, on s'appelle, on prie tout de suite au téléphone ensemble. Voilà, ça c'est faire église. Et tellement cette notion de communion fraternelle est centrale pour l'église. L'apôtre Jacques nous dit aussi dans Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ça, je pense que tous les chrétiens ne le comprennent pas forcément, que tout juste, tout disciple du Christ a une efficacité dans sa prière. Et parfois, il se trouve que... Moi, il m'est arrivé de voir des personnes à qui tu proposes de prier et qui disent « Ah non, mais je prends rendez-vous avec le pasteur. Il va prier pour moi. » Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que le pasteur, il est plus proche de Dieu que n'importe quel frère et sœur qui vit avec le Christ. Et donc, j'ai vraiment rencontré ça. J'ai dit « Ah non, mais je prends rendez-vous avec le pasteur. Il va prier. » Mais nous sommes tous sacrificateurs. Rappelez-vous, Apocalypse, chapitre 1, verset 5 et 6, je vous lis ça, c'est vraiment important. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. C'est vraiment, nous sommes tous, une fois que nous avons été délivrés de nos péchés par le sang, nous devenons sacrificateurs. Et notre prière est aussi efficace que la prière du pasteur ou de l'évangéliste ou du prophète, tout ce que vous voulez. Nous sommes tous sacrificateurs. Et donc, nous avons tous la responsabilité d'annoncer l'évangile, puisque nous sommes disciples. Nous avons tous la responsabilité de baptiser, mais bien sûr avec sagesse, dans certaines conditions, pas dans l'anarchie. Nous avons tous la responsabilité de prier, d'intercéder, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Et ceci aussi, la prière, on n'a pas forcément besoin de venir ici le dimanche matin pour prier. La prière peut se faire en tout lieu. Il y a des gens, parfois, ils ne prient que dans la salle de culte. C'est là où vraiment ils pensent que Dieu est présent. Et Paul nous dit dans 1 Timothée 2:8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous n'avons pas besoin de ce qu'on appelle « église ». Ce nom qui a été donné à des bâtiments, alors que l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais les gens ont besoin d'un bâtiment pour prier, parce que, ou des cathédrales. Il y a des gens qui me disent, quand j'entre dans une cathédrale, ah, je sens la présence de Dieu, s'il y a quelque chose. Un bâtiment, Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui croient qu'il faut un lieu spécial pour prier. Mais la Bible nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Actes chapitre 17, verset 24. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment pour être adoré. C'est le bâtiment, il n'a rien de sacré. Actes chapitre 7, verset 48 et 55, à 50, je viens de vous lire. Voilà. Donc, l'Église, c'est vraiment la réunion des disciples. Une fois qu'on est réunis quelque part, on peut se réunir dans les maisons, dans les appartements. Ça suffit pour faire l'Église. On n'a pas besoin de bâtiment spécial. Et d'ailleurs, Paul le rappelle parfois, on sent que dans cette Église apostolique, les gens se rassemblaient comme ça dans des lieux, dans les maisons, pour former l'Église. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Et Colossiens chapitre 4, verset 15, saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Donc, l'Église peut se faire dans une maison. Donc, l'Église ici a commencé dans l'appartement de Olaf, dans la maison de Olaf et Imke. Donc, une maison suffit, un appartement suffit, une chambre suffit pour faire l'Église, pour prier, pour faire tout ce que nous faisons ici. Ici, c'est pratique d'avoir un lieu assez, une salle, une grande salle. Mais l'Église, ce n'est pas la salle. Ça peut se faire en tout lieu. On n'a pas besoin non plus de ce que je dirais de culte liturgique pour faire Église. Qu'est-ce que j'entends par culte liturgique? C'est le culte où tout est. On a des choses qui sont prévues systématiquement. Voilà, il y a des ordres. Il faut faire ça avant, après ça, après ça. C'est de la liturgie. Mais la liturgie, il n'y en a pas dans la Bible. C'est comment on sent les choses, comment le Saint-Esprit conduit les choses. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'enseignement, qui est la communion fraternelle, qui est le repas du Seigneur, qui est les prières. Tout cela, c'est possible sans culte, je dirais, liturgique. Il faut rester dans la simplicité. Il suffit d'être réunis autour du Seigneur Jésus. Et là, c'est une occasion formidable, une opportunité formidable pour adorer Dieu ensemble. Voilà. Parce, donc, forcément, c'est pas forcément le dimanche matin que nous adorons Dieu. Et ce n'est pas non plus systématiquement dans un bâtiment donné. Ça peut se faire dans les maisons, comme je l'ai dit, dans les appartements. Et pour terminer, rappeler qu'il suffit d'être deux ou trois pour faire un culte, pour partager tout ça ensemble. Du moment où on est réunis autour du Seigneur Jésus, on fait Église. Je pourrais même résumer ça comme ça. Faire Église, c'est être réuni autour du Seigneur Jésus pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Et donc, pour conclure, je rappellerai quand même que faire Église, il y a des choses qui sont, il y a des éléments qui doivent être là. C'est par exemple porter les fardeaux les uns des autres. Pour certains, faire Église, ça reste quelque chose de très spirituel. Mais le Seigneur veut que ce soit très concret. C'est porter les fardeaux les uns des autres. Comme je l'ai dit, s'exhorter, s'édifier, s'encourager, se corriger aussi, lorsque cela est nécessaire. Exercer l'hospitalité, ça fait partie des missions de l'Église locale. Mettre ses dons au service les uns des autres, ça fait partie des missions de l'Église locale. Prier les uns pour les autres. Voilà. Ça aussi, on en a parlé, on a prié pour des situations ici. On continue de le faire, ça fait partie de la mission de l'Église. Et adorer ensemble. Voilà. Ça, c'est, je résume comme ça, en fait, la mission de l'Église locale, ce que nous avons à faire ensemble. Et c'est ce que nous avons à enseigner à tout disciple en Église. Lorsque nous faisons Église, donc quand on parle d'enseignement, c'est enseigner tout ce que je viens de dire là, aux nouveaux, ou à nous tous d'ailleurs, nous les rappeler, parfois on les oublie. Et donc rappeler que faire Église, c'est tout cela, c'est ça l'enseignement, la formation du disciple dans l'Église. Et il reste à ajouter l'annonce de l'Évangile pour faire complètement ce que l'Église doit faire. Et ça sera, comme je le disais, l'objet d'une série de prédications. Donc si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, nous devons respecter ces choses-là. Et donc, la prochaine fois, nous parlerons de l'annonce de l'Évangile, qui est vraiment une mission, la mission clé que le Seigneur nous a confiée, et pour être vraiment dans sa volonté et faire ce qu'il nous demande de faire. Voilà. Je vous remercie. Et que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Amen.